L'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans L'aime, votre quotidienne sur Transistor, c'est le nouveau nom de Radio Évasion. Nous sommes en direct de midi et jusqu'à 13h et aussi en rediffusion le soir même à 18h. Et puis comme pour, comme toujours même sur internet à radioévasion.net. Alors le handicap mental nous concerne tous puisqu'il peut survenir de façon extrêmement brutale. Il n'est pas réservé qu'aux personnes malchanceuses du brassage génétique. Dans tous les cas, une personne handicapée a besoin de structures, de professionnels pour l'aider dans ses démarches, mais et aussi, et de plus en plus, des aidants, c'est-à-dire la famille, les proches, les amis, pour apporter un confort, une aide et un petit peu de légèreté dans l'âme et dans le cœur. Les structures, les professionnels seront toujours là. Enfin, on en est presque sûr, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que la famille, les familles et les proches disparaissent pour toujours. Et quand ils disparaissent, eh bien comment ça se passe? Qui va s'occuper de votre enfant dépendant quand il n'y aura plus personne pour le faire? L'ADAPEUI, l'association départementale des associations de parents et amis des personnes handicapées mentales du Finistère, a expérimenté et expérimente toujours des choses et ils ont peut-être même trouvé une solution. Je reçois aujourd'hui Jean-François Killien, vous êtes coordinateur du projet Après Parents à l'ADAPEUI 29 et vous êtes venu aussi avec Véronique, votre épouse. Bonjour.
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 Comment allez-vous?
Très bien,
très bien,
merci.
Le soleil.
Il y a un beau soleil. Alors, est-ce que vous pouvez, Jean-François, nous présenter un petit peu l'association?
Alors, l'ADAPEUI, comme vous l'avez dit, rassemble les parents et amis d'enfants handicapés mentaux. Le handicap mental, c'est le terme qu'on utilise, mais je pense que c'est plus clair de parler de déficience intellectuelle. Ce sont nos enfants... ont des difficultés dans la compréhension, dans la lecture, dans le calcul, dans la réflexion. Enfin voilà, très souvent, c'est quand ils commencent à grandir qu'on se rend compte qu'ils ont des difficultés. Cela dit, chaque enfant est différent, donc il y a une grande diversité de situations.
Mmh. Et alors, ça veut dire quoi, en fait, être parent d'un enfant qui a des déficiences intellectuelles, Véronique?
J'allais dire, c'est douloureux, surtout dans les... Par exemple, on s'en rend compte quand ils sont jeunes, c'est dans les relations dans la famille, avec les cousins, pas avec ça. Il a une sœur, notre enfant a une sœur, donc ça se passe très bien, mais avec les cousins, ils ne peuvent pas partager, en fait, les mêmes jeux. Ils sont maladroits pour jouer au foot. Ils ne peuvent pas partager les autres sociétés, donc en tant que parents, c'est douloureux, c'est de voir qu'ils sont à l'écart, qu'ils ne peuvent pas finalement partager avec les autres enfants des moments de vie qui sont habituels dans la famille. Voilà, donc ça fait un peu... Voilà.
Et c'est quoi l'impact sur les parents d'avoir un enfant qui a des dysfonctionnements mentaux?
L'impact, c'est que ça change complètement la vision donc on a de la vie. Ça change la hiérarchie des valeurs. Hein, on s'aperçoit que les relations humaines, les relations sociales sont très très importantes. Et finalement, on accorde de l'importance à ce qui est important dans la vie. C'est les relations entre les gens. La simplicité, la chaleur humaine, la solidarité, voilà. Donc on laisse de côté tout ce qui est un peu secondaire, tout ce qui est pas important, tout le paraître en fait, tout ce qui est le paraître. Par exemple, en ce qui concerne notre fils, on s'aperçoit qu'il a des très bonnes relations avec les gens, mais il a des relations, que la personne soit jeune, âgée, qu'elle soit employée, députée, quelle que soit finalement sa vie professionnelle, pour lui c'est pas important, il a des relations avec les gens. Et je pense que les personnes en face sont assez sensibles à ça. Finalement, il a des relations avec des personnes, pas avec du paraître, avec des personnes.
Et pour les parents, c'est un monde qui s'écroule, qui peut devenir...
C'est pas qu'il s'écroule, c'est qu'on y a beaucoup d'inquiétudes. On est vigilant sur un peu pour le protéger dans des situations qui peuvent être où il pourrait se faire, arnaquer ou embobiner par une personne qui serait gentille avec lui. Donc c'est plutôt l'angoisse de quand on sera pas là, l'angoisse qui est-ce qui va prendre soin de lui. Qui est-ce qui va le protéger?
Est-ce que pourquoi le handicap même est devenu une priorité pour le Finistère?
Alors je pense, moi j'ai pas les chiffres précis, mais le handicap, les personnes en situation de handicap, c'est quand même une population relativement importante. Nous, au niveau de l'association, la DAPI a été créée en 73. Nous, on est adhérents depuis une vingtaine d'années et on s'est toujours, depuis que je connais la DAPI, on s'est toujours battu, comme on dit, pour justement la création de places, comme on dit, c'est-à-dire pour faire en sorte que les pouvoirs publics financent des places dans les établissements. Parler des jeunes, pour ce qui concerne les jeunes, c'est souvent les IME. Il y a des listes d'attente importantes dans les IME, donc je sais que dans le Finistère, il y a des, comme dans tous les autres départements, il y a peut-être une centaine d'enfants qui ont une orientation en IME, qui ne peuvent pas rentrer en IME.
C'est quoi l'IME ?
Alors les IME, sont des établissements, c'est là où on met entre guillemets les enfants quand ils ne peuvent pas suivre le cursus scolaire normal. Donc c'est un établissement médico-social, comme on dit. Donc il y a des éducateurs, on les accompagne, enfin les éducateurs les accompagnent. C'est sûr que les personnes qui sont en IME, c'est parce qu'ils n'ont pas pu suivre le cursus scolaire classique, habituel. Thomas, notre fils, il y est allé vers 13-14 ans à peu près. Normalement ils doivent en sortir à 18-20 ans, et en fait comme il n'y a pas de solution à la sortie ou pas suffisamment de solution à la sortie, il y en a beaucoup qui restent à l'IME après 20 ans. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont accueillies en IME et qui sont en fait adultes. Ils ne devraient plus l'être en IME. Ils devraient être ailleurs, dans d'autres établissements. Donc voilà, donc, ça c'est la situation que l'on vit. Et donc, on est intervenu auprès du conseil départemental, notamment. Alors, les principaux financeurs, c'est le conseil départemental et l'ARS, l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire l'État. C'est à la fois le conseil départemental et l'État. Donc, nous, on intervient auprès des deux, les financeurs, en fait, pour qu'il y ait suffisamment de structures. Pour ce qui concerne les IME, c'est essentiellement l'État, en fait, qui finance. Hein. Donc voilà.
Il y a beaucoup de ressources qui sont consacrées justement à l'accompagnement pour le handicap mental en Finistère. Est-ce que il y a beaucoup de structures ?
Alors, j'ai pas le chiffre. Hein, vous auriez dû me poser la question avant et j'aurais regardé les chiffres.
C'est pas grave.
Non, c'est sûr que les besoins augmentent parce que la population est de plus en plus importante. Si je prends le cas ce qu'on appelle les ESAT, autrefois les CAT, ils ont été créés donc en 75, je crois. Donc depuis 75, les personnes sont rentrées, donc il y en a de plus en plus, en quelque sorte. Donc la population augmente, de fait. Et puis il y a aussi, donc ça je dirais que c'est la démographie, hein. Et puis il y a un autre aspect, c'est que nos enfants, heureusement, sont quand même mieux accompagnés aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 50 ans, par exemple. Et donc ils ont tendance, enfin, c'est à vivre plus longtemps. Et ils sont mieux soignés qu'autrefois, qu'il y a 50 ans. Donc ça, c'est le bon côté, comme tout le monde. Hein, c'est le bon côté des choses. Mais c'est aussi le fait qu'avec la démographie, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes et qu'ils vivent de plus en plus longtemps, comme tout le monde, c'est aussi pour ça qu'on a pensé donc, au projet dont vous avez parlé, qui nous a conduit à un peu nous inquiéter, parce que c'est une situation relativement nouvelle. Et donc, Et donc, les pouvoirs publics n'ont pas encore pris la mesure de la difficulté. C'est une question un peu générale. Hein. Le vieillissement de la population, on connaît ça. Il y a de plus en plus de personnes âgées. Donc, je dis souvent, moi, que quand on vieillit, c'est une difficulté pour tout le monde, oui, pour chacun d'entre nous. Donc, c'est une première difficulté. Et quand on a un enfant handicapé, c'est une double difficulté, une double peine, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà. Donc, on cumule un peu les difficultés.
Oui, et alors il y a une enquête qui s'appelle La Voix des Parents. C'est une enquête qui a été faite par l'UNA PUI. C'est donc c'est la structure qui regroupe un petit peu tous les ADA PUI de toutes les régions, parce que l'ADA PUI, c'est une structure qui est nationale et puis qui est divisée ensuite par département, si j'ai bien compris, avec des antennes un petit peu partout.
C'est ça.
Et donc qu'est-ce que ça a révélé, cette enquête?
Ben c'est, l'ADAPI, c'est effectivement départemental, hein, comme l'a dit le D, et les ADAPI font partie de l'Union nationale, l'UNAPI, qui regroupe toutes les associations, des centaines d'associations, je crois. Et effectivement, il y a quelques mois, c'est pas très vieux, ils ont lancé une enquête auprès des familles, et il y a 4000 familles qui ont répondu, donc c'est quand même pas rien, en quelque sorte, c'est un échantillon qui est quand même intéressant. Et effectivement, donc, ils ont posé aux familles toute une série de questions pour essayer de savoir quelles étaient les attentes et les besoins des familles.
Des questions sur leurs habitudes aussi, ces questions un petit peu banales sur leurs habitudes. Sur leur vie de...
On évoquait tout à l'heure, par exemple, vous posiez la question qu'est-ce que ça fait d'avoir un enfant handicapé. Ben, pour les jeunes parents, la première des conséquences, c'est qu'il faut s'occuper de l'enfant, et comme l'enfant a des tas de problèmes, eh bien, les parents, il faut qu'ils s'en occupent. Donc c'est un travail au quotidien très important, et en particulier pour les mères. Bon, les mères qui s'occupent des enfants, donc les mères qui doivent s'occuper, déjà parfois ils ont d'autres enfants, en plus l'enfant handicapé, certaines, oui, beaucoup travaillent.
Oui.
Donc pour concilier tout ça, c'est vraiment la galère, hein. C'est vraiment galère, donc c'est très compliqué. Donc,
parce que c'est une charge mentale pour les parents.
En plus.
Et ça peut engendrer des problèmes au niveau du travail. On peut perdre son boulot qu'on n'est plus performant. Enfin, c'est.
Oui. Il y a beaucoup de mères de famille qui quittent leur boulot pour pouvoir s'occuper de leur enfant. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est loin d'être négligeable.
Et les séparations aussi.
C'est ce que j'allais dire. Il y en a beaucoup qui divorcent. J'ai le chiffre d'un couple ayant un enfant handicapé. J'ai le chiffre de 1 sur 2 qui divorcerait.
On
a vérifié, mais c'est très important. Et dans 95% des cas, c'est la femme qui, en cas de séparation, c'est la femme qui garde les enfants. Donc c'est une double peine. Donc c'est, c'est des situations très compliquées. Et je vois dans notre association, bon, on organise des réunions, des échanges entre parents, etc. Et c'est très compliqué de... Justement, on constate que les jeunes parents ont du mal à venir. Tout simplement parce qu'ils sont occupés. Si vous faites une réunion le samedi matin, elles ont autre chose à faire que de venir à notre réunion. Donc, c'est vraiment très important. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que ces jeunes parents, comme ils sont occupés, ils n'ont pas forcément le temps de manifester ou de montrer leur situation. En fait, on parle souvent de handicap invisible, parce que contrairement au handicap physique, où on voit bien que la personne est en situation de handicap, quand elle ne peut pas monter l'escalier ou autre chose, dans notre cas, c'est un peu différent. Le handicap, on ne le voit pas nécessairement. Et donc, même pour les parents, dans leur vie professionnelle ou... les collègues, par exemple, de bureau ne savent pas toujours qu'il y a un enfant handicapé dans la famille. Oui. Enfin, voilà, c'est...
Tout un truc. Et donc, du coup, cette enquête, elle a révélé que la grande... Ce qui en est ressorti en majorité, c'est qu'est-ce qui va se passer une fois que je ne serai plus là, une fois qu'il n'y aura plus personne pour s'occuper de lui.
Voilà. En fait, dans l'enquête, il y a eu des tas de questions, hein, des dizaines et dizaines de questions, et celle qui a donné le plus grand score, si je puis dire, 95%, des familles interrogées, donc sur les 4000, effectivement, s'inquiètent pour l'avenir de leur enfant quand ils ne seront plus là, quand les parents ne seront plus là. Donc 95%, c'est énorme, quoi. C'est tout le monde.
C'est tout le monde, bien sûr.
Voilà. Donc ça, c'est... Bon, les parents, nous, on le sait, puisqu'on vit ça, mais c'est vrai que, à ma connaissance, c'était la première enquête qui le révélait. Donc c'est important, et du coup, ça permet aussi de prendre conscience... au niveau un peu associatif, parce que nous, encore individuellement, on le sait, Mais, et puis on en discute entre nous. Mais ce qui est compliqué, c'est que les situations des personnes individuelles sont différentes d'une famille à l'autre. On a chacun notre enfant qui est différent, etc. Donc on est tous un peu centrés sur nos problèmes, si je puis dire, sur notre enfant, comme n'importe quelle famille. Mais là, ce qui est important aussi de faire remonter, c'est que finalement, tous les parents qui ont un enfant handicapé mental sont confrontés aux mêmes difficultés.
Oui.
Donc il faut... j'ai été président de l'ADAPI il y a quelques années, donc c'est la dimension politique qui me paraît importante, parce que il faut arriver à ce que les responsables prennent conscience. Quand je dis les responsables, c'est pas simplement les responsables politiques, c'est aussi les professionnels qui prennent conscience de cet enjeu-là pour ensuite pouvoir proposer des solutions. Quoi.
Ouais. Alors justement, il y a un dispositif qui vient de sortir qui s'appelle Après Parents. C'est un dispositif qui a... Allez, on peut dire ça comme ça, a été influencé par un dispositif qui existe déjà un petit peu en Belgique, qui s'appelle, je crois, Madras.
Tout à fait.
J'ai bien compris. Et c'est toujours en phase de test. C'est pas encore lancé. Apparemment, tout le monde est très content. Tout le département, toutes les structures, toute l'administration, tout le monde a l'air très content de ce dispositif-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que c'est ?
Alors... Effectivement, comme je disais, on organise très régulièrement des discussions, on échange entre parents. Donc, il y a quelques années, 2-3 ans, on avait organisé des échanges pour savoir quelles étaient les attentes des parents, et le thème du vieillissement était ressorti en discutant avec les parents. Et à partir de là, on avait... c'était au moment du Covid à peu près, où le Covid est arrivé. Et quand le Covid est arrivé, au niveau de l'association, on a accueilli une stagiaire de l'université qui a fait un travail d'enquête auprès de nos adhérents pour savoir sur le thème du vieillissement quelles étaient leurs questions, leurs problèmes, etc. Et en faisant cette enquête-là, elle a identifié le service belge là, que vous avez cité, le service Madras. Et donc moi, j'ai appelé la directrice de ce service belge pour savoir ce qu'il faisait. J'avais été... étonné. Alors, il y a deux choses qui m'ont étonné. D'abord, c'est que le service en question existe depuis plus de 20 ans. Et c'est un service social qui s'adresse aux parents pour aider les parents sur cette question de la préparence, c'est-à-dire de l'avenir. Comment préparer l'avenir ? Et ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième, c'est que ça a été proposé par une association de parents. Donc je me dis, les Belges, les parents belges, il y a 20 ans, ils sont bougés. Je me dis, il faut qu'on se bouge un peu dans le Finistère. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et on a adapté, en fait, le projet là, préparant qu'on a mis en place. Donc, il est inspiré de cet exemple belge. Mais la Belgique est quand même très, très différente sur le plan législatif et tout ça. Donc, il s'agissait de l'adapter. Et donc, on a mis en place, concrètement, on a mis en place, en fait, dans le Finistère, donc un réseau de professionnels. Donc il y a 15 professionnels actuellement répartis sur l'ensemble du territoire du Finistère. Ça, c'est quelque chose auquel on tenait, faire en sorte que ce service soit à la disposition des parents et pas trop loin de là où habitent les parents. Il y a beaucoup de parents qui ont, surtout les parents âgés, qui ont des difficultés à se déplacer. Donc c'est pas neutre d'avoir un service de proximité. Donc là... Les parents qui s'inquiètent pour l'avenir, etc., ont la possibilité donc de demander à rencontrer ces professionnels, ce réseau des professionnels. Et donc, le rôle, en quelque sorte, de ces professionnels, bah, c'est déjà d'accueillir les parents, de les écouter. C'est pour les parents l'occasion d'exprimer, je dirais, c'est la... peut-être la première fois qu'il existe un dispositif où les parents peuvent parler à un professionnel. Et là, c'est aussi important. Je vous disais que nous, on a des rencontres entre parents, mais entre parents, bon, on échange, mais on ne va pas forcément raconter toute notre vie à l'autre parent, surtout s'il y a des difficultés. Bon, il y a des familles, dans toutes les familles, il y a des difficultés, etc. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'intime. En plus, on parle de l'avenir, de la mort, de tout ça. Donc, c'est important qu'on ait des professionnels, que ce ne soit pas des parents quoi, qui reçoivent. Voilà, donc il y a un certain... On a tapé à toutes les portes des organismes du Finistère. Il y en a 9 qui ont répondu positivement et qui ont accepté donc, de mettre quelques heures, si je puis dire, de leurs travailleurs sociaux à la disposition de ce réseau. Donc le réseau, il est opérationnel. Il est en place depuis juin 2023.
Oui, c'est vraiment récent. Hein.
Voilà, c'est récent. Mmh. Et donc, dès qu'il a été en place, ben, on a fait savoir qu'il existait, notamment auprès de nos adhérents. À l'ADAPI, je ne l'ai pas dit, il y a un peu plus de 800 adhérents sur l'ensemble du département. Donc, on a commencé par les informer. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on approche les 80 familles qui ont répondu, c'est-à-dire qui ont fait appel, qui ont demandé à rencontrer l'un de ces 15 professionnels. Donc, ce qui est relativement important. En tout cas, on ne pensait pas qu'il y en aurait autant aussi vite. Voilà. Donc, voilà. Donc, les professionnels sont en train, si je peux dire, d'accueillir les familles. Et alors, une autre chose importante, c'est que sur ce sujet-là, le sujet qu'on aborde, de la préparant, c'est pas en une réunion comme ça d'une heure qu'on arrive à traiter de toutes les questions. C'est des sujets très compliqués, il y a des facettes, il y a des aspects, on parlait de famille, les relations familiales.
Oui, on parle aussi, oui. Il y a aussi les personnes isolées, qui sont en handicap mental isolées.
Oui. Ouais. Alors, effectivement, il y a des, on le sait pas parce que c'est pareil, ce sont des gens un peu invisibles, mais il y a pas mal de... Je vais vous citer un exemple. Je trouve que hier, j'étais en réunion avec des professionnels qui travaillent dans des ESAT, des éducateurs, et qui accompagnent les travailleurs d'ESAT, là, qui sont un peu vieillissants et qui commencent à préparer leur retraite. Et ils me disaient que pour certains d'entre eux, et un bon nombre d'entre eux, en fait, sont des personnes qui sont rentrées à l'ESAT à 20 ans, mais qui habitent toujours chez leurs parents. Quand ils quittent les ESAT, donc à 55 ans, en fait, leurs parents, j'ajoute 30, pour avoir à peu près l'âge moyen de leurs parents, donc leurs parents ont 85 ans. Ça veut dire que ces travailleurs des ESAT, ils quittent les ESAT pour prendre leur retraite, à 55, 60 ans, mais ils vont chez leurs parents, qui ont 85, 90 ans. Donc, voilà. Oui. Donc, c'est fou d'imaginer que ces parents de 85-90 ans se retrouvent avec leur fils ou leur fille à la maison. Enfin voilà, c'est les mettre dans des situations impossibles. Quoi. Mmh. Et ça conduit d'ailleurs à des catastrophes parfois, on le sait.
Donc ces 9 professionnels qui vont œuvrer dans ce dispositif-là, ils vont commencer...
15 au total.
Mmh. Ils vont commencer à agir avant le décès. Ils vont commencer, oui, à s'impliquer dans la vie des gens.
Oui. L'idée, c'est ça, c'est d'anticiper, c'est-à-dire les parents peuvent les rencontrer à tout âge. D'ailleurs, on n'a pas mis de limite. Moi, je connais des jeunes parents, enfin des parents de 40 ans qui demandent à les rencontrer parce que justement, ils veulent pas être pris de court, ils veulent anticiper sur l'avenir. Donc, c'est tout l'intérêt de ce réseau-là. Alors, les professionnels donc, commencent par échanger avec les parents. Ils regardent un peu où est l'enfant, quels sont les problèmes, les difficultés, besoins. Santé, les besoins juridiques, financiers, etc. Et après, donc, c'est pas des personnes qui vont répondre à tout. Mais enfin, les professionnels, ils n'ont pas forcément toutes les réponses tout de suite.
Oui, puisque chacun est unique.
Ben voilà. Et puis, malheureusement, il n'y a pas toujours de réponse immédiate. Par contre, ils vont orienter les parents vers tel ou tel service en fonction des questions que les... Mais ça peut être, si on parlait par exemple, il y a souvent, en matière de handicap, il y a la question de la protection. Est-ce que l'enfant est sous tutelle ou pas? Est-ce qu'il faut la mettre sous tutelle ou pas? C'est sûr que si la personne vieillit, si les parents vieillissent, c'est une question qui se pose. Donc, voilà. Donc, quel est le bon choix, en quelque sorte? Est-ce que c'est forcément le parent? Question très importante, est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Alors ça revient tout de suite. Et c'est une question centrale. Souvent, ce qu'on voit autour de nous, c'est que les parents ont tendance à dire, bon, quand il y a des frères et sœurs, il n'y en a pas toujours, mais quand il y a des frères et sœurs, les parents ont tendance à considérer que tant qu'ils peuvent, eux, en tant que parents, s'occuper de l'enfant handicapé, ils le font parce qu'ils ne veulent pas surcharger, comme ils disent, les frères et sœurs. Et par contre, quand on interroge un peu les parents, ils comptent aussi quelque part sur les frères et sœurs pour prendre la suite, comme on dit. Vous voyez ? Or, les frères et sœurs, un, ne sont pas forcément au courant, deux, ne sont pas forcément d'accord. C'est compliqué parce que aujourd'hui les frères et sœurs dont on parle, ils ont fait leur vie, ils ont leur enfant, ils sont pas forcément dans le Finistère, voilà. Oui. Et donc ils sont pas forcément en situation d'accueillir leurs frères et sœurs handicapés, voyez. Donc ça, c'est des questions très compliquées. Et donc il faut accompagner les parents dans cette réflexion là. Est-ce qu'ils en ont parlé au sein de leur famille de la suite? Pas évident. Dans les réunions de famille, c'est Noël bientôt, là. Est-ce que c'est les choses dont on parle à Noël? Je ne suis pas sûr. voyez ? Les enfants, en plus, ben, beaucoup sont loin maintenant. Donc, enfin, voilà, c'est très compliqué de parler de ces sujets-là. Et donc voilà, mais il faut le faire.
Merci beaucoup Jean-François Killien, merci beaucoup Véronique Killien d'être venue à Radio Évasion pour nous parler un petit peu de ce superbe projet. Trois minutes de pause.